Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré à la régulation des géants du net. À l'ordre du jour ce soir, GAFA, l'Europe a-t-elle les moyens de ses ambitions? Voilà des semaines qu'on les attendait, le Digital Marketing Act et le Digital Services Act, deux règlements destinés à encadrer la nouvelle économie numérique dans l'Union européenne, ont été présentés hier soir à Bruxelles. Il y avait pourtant des textes réglant la concurrence dans ce secteur, mais c'est à grand son de trompe émis par la Commission que ces nouveaux règlements sont chargés de réguler justement les géants du numérique qui, depuis trop longtemps, dit-on, se sont affranchis des règles de la concurrence et on finit par devenir des sortes de monopoles dans leur secteur d'activité. Mais comment viser les géants Google et Amazon sans entraver la croissance de futurs géants européens? Comment remettre de l'ordre dans le chaos, comme on dit du côté de la Commission? Comment agir en amont et non plus en aval des distorsions à la concurrence des GAFA? N'est-il pas déjà trop tard quand ces géants ne sont plus seulement états-uniens mais aussi chinois? D'autant que le temps d'être discuté devant le Parlement, eh bien ces nouveaux règlements ne pourront être au mieux appliqués que dans 18 mois, c'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Stéphanie Yoncourtin, bonsoir Stéphanie Yoncourtin.
Bonsoir Emmanuel Laurentin.
Vous êtes eurodéputée dans le groupe Renew Europe et vous êtes vice-présidente de la commission affaires économiques et monétaires. Avec nous également Thibault Schreppel, bonsoir Thibault Schreppel.
Bonsoir.
Vous êtes professeur assistant de droit économique à l'Université d'Utrecht et chercheur associé à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Enfin, Bruno Alomar, bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Vous êtes économiste, professeur de questions européennes à Sciences Po et ancien haut fonctionnaire à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne.
J'ai réfléchi à une métaphore et la meilleure qui me soit venue à l'esprit, c'est l'installation du premier feu de signalisation qui permit d'apporter de l'ordre dans les rues. C'était aux États-Unis, à Cleveland, Ohio. Et cela fut inventé pour répondre à une révolution technologique majeure, l'invention de la voiture. Et je pense que comme à l'époque, il y a un peu plus de 100 ans, aujourd'hui nous avons une telle augmentation du trafic Internet que nous avons besoin d'apporter de l'ordre dans ce chaos. Et c'est précisément le but de la législation sur les services numériques. Définir des règles, faire d'Internet un espace sûr, fiable, sans danger pour les usagers des routes numériques.
Vous l'avez peut-être reconnu, la vice-présidente de la Commission européenne en charge du numérique et de la concurrence, Margaret Vestager, c'était hier, dans une traduction de notre réalisatrice Asia Ralid. Bonsoir à tous les trois. Est-ce qu'il fallait réguler Stéphanie Yoncourtin ou est-ce que on pouvait s'en passer?
Eh bien écoutez, il fallait remettre de l'ordre, comme l'a dit Margaret Vestager, je dirais enfin, il fallait organiser l'espace économique numérique. Et ce DMA est le bienvenu, il répond finalement à un besoin, c'est agir plus vite et plus efficacement sur les marchés numériques pour empêcher les acteurs dits systémiques finalement de devenir tellement incontournables qu'ils pourraient empêcher l'émergence de concurrents et d'entreprises.
Alors, il y a tout un vocabulaire autour de ça. C'est effectivement la question d'acteurs systémiques. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire un acteur systémique? Qu'est-ce que c'est qu'un acteur systémique? Est-ce qu'il y en a en Europe ou est-ce qu'il y en a aussi, surtout aux États-Unis et en Chine?
Eh bien, il y en a aussi en Europe, mais d'abord, effectivement, beaucoup aux États-Unis et en Chine. Ils sont, selon la Commission européenne et cet outil du DMA, définis par des critères quantitatifs. Et en fait, ce sont finalement des acteurs qui agissent comme des passages obligés, des plateformes qui fournissent des services d'intermédiation et qui ont un impact sur le marché intérieur très significatif. Ils agissent comme des interfaces, en fait, entre des réseaux. Et ils ont une position telle, justement, que ils pourraient, dans leur pratique, s'affranchir, finalement, des règles du jeu. Et il s'agit, dès lors, finalement, de fixer véritablement des règles du jeu pour faire en sorte de ne pas empêcher les concurrents d'émerger.
Bruno Alomar, Margaret Vestager utilise une métaphore routière. On parlait souvent, dans les années 70 et plutôt dans les années 80, des autoroutes de l'information. Le net n'était pas encore tout à fait né. Est-ce que c'est une bonne métaphore, cette métaphore routière avec les feux rouges, ou est-ce que il fallait justement, on était déjà en train d'utiliser des feux rouges et un code de la route pour tout ce numérique qui était en train de se développer et qu'il aurait peut-être fallu imaginer autre chose, Bruno Alomar?
Alors, sur la métaphore, je laisse Madame Vestager la responsabilité de l'utiliser. Sur la régulation, ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne, c'est d'abord une usine à fabriquer de la régulation. Donc, c'est ça qu'elle fait en permanence, des directives, des règlements, etc. Donc, le mantra de l'Europe, c'est « je régule, donc je suis ».
C'est d'ailleurs une usine à fabriquer de la norme, c'est ça ?
Une usine à fabriquer de la norme, fondamentalement l'Union européenne. De la norme pour faire marcher un grand marché européen de 450 millions de personnes et avoir des règles à l'égard du reste du monde. Donc, qu'elle régule, c'est assez logique. Qu'elle adapte sa régulation au monde tel qu'il évolue, c'est assez logique. Dans le service public français, on parle des règles de mutabilité du service public, c'est assez normal. Dans la vraie question, moi je pense, pourquoi l'Union européenne, alors qu'elle a déjà une direction de la concurrence, un commissaire à la concurrence extrêmement puissant et un droit de la concurrence très fort, ressent le besoin, entre guillemets, d'en faire plus. C'est un peu difficile à comprendre comment Madame Vestager, qui il y a quelques années nous expliquait qu'elle avait mis une très grosse amende à telle entreprise du numérique américain, et puis une autre, et puis un redressement fiscal à Apple en Irlande, etc. Ça semblait assez, mais tout d'un coup, c'est plus assez.
Oui, c'est-à-dire qu'on tombait, les milliards tombaient, enfin, on espérait les faire tomber, parce qu'il y avait des recours, évidemment, qui ne les faisaient pas tomber tout de suite, mais en tout cas, c'était ça la politique jusqu'alors.
Oui, c'était ça la politique jusqu'alors, mais cette politique de la concurrence, encore une fois, qui est très forte et qui a déjà des outils extrêmement puissants, elle a été plébiscitée jusqu'à apparemment hier, mais hier on a découvert que c'était plus assez. Mm-hmm. Donc, c'est un petit peu compliqué et ça ouvre un champ de très grandes questions. Mais du coup, qui va mettre en œuvre les nouvelles règles qu'on est en train d'imaginer? Je crois que ça a été dit, il ne faut pas croire qu'elles ne vont pas encore être adaptées, il va y avoir des échanges avec le Conseil et le Parlement européen, mais là on a déjà un vrai sujet, je crois.
Thibault, je rappelle justement cette question, est-ce qu'on ne pouvait pas faire avec ce qu'on avait déjà d'une certaine façon?
Oui, alors pour le coup, moi je veux bien parler de la métaphore, parce qu'effectivement elle est très intéressante, et à l'inverse peut-être de ce qui se passe sur la route, où on sait qu'écraser un piéton, a priori, c'est quelque chose de plutôt néfaste pour la société, je suis pas sûr que la Commission européenne, ici, mette des feux rouges pour des pratiques ou des comportements dont on est certain qu'ils soient néfastes. Et pour en venir à votre question, c'est justement tout l'enjeu du droit de la concurrence qui, durant les 40 dernières années, s'est économisé pour être certain de ne sanctionner les pratiques que les pratiques qui sont néfastes pour le consommateur, tout en permettant les pratiques qui, au contraire, bénéficient à l'innovation, à la baisse des prix, etc. Et ici, la Commission européenne prend une démarche qui est diamétralement opposée, puisqu'elle notamment dresse une liste de pratiques qui seront toujours interdites, sans par ailleurs, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler, que la science économique apporte un consensus derrière ces pratiques.
Alors, donc, il faut expliquer ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que nous dit la Commission européenne, c'est nous n'allons plus agir ex poste, comme on disait auparavant, c'est-à-dire après les infractions commises, donc en mettant des amendes, comme le disait à l'instant Bruno Alomar, mais on va pratiquer ex ante, c'est-à-dire on va donner des règles, et si les gens ne veulent pas jouer ces règles, si ces géants du numérique étrangers ne veulent pas jouer avec ces règles-là, eh bien on les interdira sur le territoire européen. C'est cela, Thibault Schreppel?
Oui, notamment pour certaines pratiques, effectivement. Donc, et alors en plus, là où c'est finalement curieux, c'est que la Commission liste certaines pratiques qui font l'objet d'enquêtes. Je prends l'exemple de l'enquête qui a été ouverte récemment contre Amazon, dans laquelle la Commission européenne reproche à cette entreprise d'utiliser l'ensemble de ses données afin de mettre en avant ses propres produits. Et cette pratique qui s'appelle, que la Commission européenne qualifie de pratique d'auto-préférencement, se retrouve dans la liste des pratiques interdites avant même que l'enquête Amazon soit conclue. Et je me questionne effectivement sur l'interaction entre, d'une part, le Digital Market Act et, d'autre part, les enquêtes qui sont encore en cours devant la Commission européenne.
Stéphanie Hillon-Courtin, vous êtes eurodéputée, vous savez ce qu'il en est des lobbies qui sont autorisés au Parlement européen. J'imagine que à partir de ces annonces, un intense lobbying va se mettre en route, parce que quand on demande par exemple d'imposer des règles qui augmentent la transparence des algorithmes, et on sait combien les algorithmes sont importants pour ces géants du numérique, qu'ils soient américains ou chinois, ou alors de limiter les usages de données privées, eh bien on touche au cœur même de la machine de ces grosses institutions nouvelles que sont les géants du numérique.
Oui, en effet. Le lobby, de toute façon, va faire son œuvre. Et bien évidemment, nous serons à l'écoute en tant que parlementaires européens, puisque ces messieurs qui interviennent, je suis d'accord qu'il y a encore beaucoup de questionnements sur ce projet. Hein, c'est un projet de régulation. Bien évidemment, il faudra faire attention en fait à cette problématique de lobbying qui sera très fort. Alors, pas forcément uniquement dans des échanges que nous pourrons avoir, mais ces lobbies sont très puissants, de façon un peu couverte en fait, à travers des associations qui sont financées par les géants de la tech, alors américains ou chinois. Donc ça, c'est quand même un sujet très important, et on veillera bien évidemment nous pouvoir faire en sorte de faire avancer sur sa deuxième jambe ce DMA, cette régulation, qui sur le papier finalement, moi, me semble intéressante. Encore une fois, moi je dis enfin, on avait besoin d'une régulation ex ante avant même qu'il y ait des catastrophes sur des marchés irrémédiables. Mais bien évidemment, se pose la question de qui va véritablement porter cette régulation, comment ça va s'articuler avec le droit de la concurrence, et véritablement quels seront les moyens humains nécessaires et les remèdes adaptés. Et pour revenir à votre question sur bien évidemment le lobbying, il y a un point qui est très important. Cette régulation, elle sera historique et fonctionnera que si on y met les moyens adaptés au monde du numérique. Parce que les lobbies, les GAFA, les géants de la tech finalement, ont des avantages très nettement comparatifs à ceux finalement de la Commission européenne, à l'heure actuelle de la DG Concurrence notamment, puisqu'ils bénéficient finalement de vraiment de toute une batterie finalement d'ingénieurs, de data scientists, des personnes qui sont très au fait du fonctionnement de la mécanique numérique, beaucoup plus que les régulateurs, le régulateur européen, et c'est ce qui fait cet avantage important. Et donc le lobby se cache dans les détails, si je puis dire, et il se cache vraiment pas uniquement dans les rencontres que nous pourrions avoir.
Alors, il est tout à fait évident, Bruno Alomar, que ce que l'on voit, c'est que il y a une discussion autour du fait que la Commission se choisisse des sparring partners qui sont très importants. Ces grands géants du numérique, en particulier venant de Californie, et qu'il y a là, effectivement, certains disent, il y a là une sorte de populisme de la Commission qui veut taper ces grands géants parce que ça rapporte en termes d'audience, pourrait-on dire, c'est-à-dire en se prenant ces géants étrangers, eh bien on ne parle pas non plus de ce qui se passe en Europe et de la possibilité aussi qu'il y en ait de semblables sur le territoire européen, Bruno Alomar.
Alors, la possibilité qu'il y en ait de semblables sur le territoire européen, pardon, c'est apparemment ce qu'on cherche, mais je ne crois pas que tout ça va permettre de les créer. Pour aller dans votre sens, oui, évidemment, tout ça est politique. Tout ça est extrêmement politique. Taper, entre guillemets, passez-moi l'expression, sur les GAFA, les GAFAM, puisqu'il y a Microsoft aussi, c'est assez intéressant pour un certain nombre de personnes ou des États. Moi, j'ai coutume de dire que le couple franco-allemand, il est extrêmement ébréché. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les Français et les Allemands n'ont pas réussi à se mettre d'accord au cours des 10 dernières années, sur les questions migratoires, sur la sortie de la Grèce de l'euro, sur la sortie de l'Allemagne du nucléaire, etc. Mais il y a un sujet sur lequel ils arrivent à se mettre d'accord. Alors, tant mieux, allons-y. C'est une forme de rejet des grandes entreprises, notamment américaines, parce qu'elles le sont, du numérique. Donc, par ailleurs, le commissaire à la concurrence, qui est toujours le plus puissant de tous les commissaires par construction, puisque la concurrence, c'est le pilier central du fonctionnement de l'Europe et de la Commission européenne, a toujours bien vu l'opportunité qu'il y avait à utiliser les géants du numérique pour faire sa propre campagne politique. Dans les années 2000, Madame Kroes, Nelly Kroes, qui est une Hollandaise qui était la commissaire à la concurrence, a décidé d'attaquer Microsoft. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien qui ne soit pas répréhensible dans ce que faisait Microsoft. Mmh. Mais en tout état de cause, il y avait politiquement un intérêt pour elle à l'attaquer. Dans les années 2010, c'est plus Microsoft, ben ce sont également maintenant Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Et tout ceci, effectivement, est politique. Mais c'est très bien compris également de l'autre côté de l'Atlantique.
Bien sûr.
Je voudrais juste souligner une petite chose, c'est que à tous les gens qui pensent que l'arrivée de M. Biden aux États-Unis va permettre de, entre guillemets, de gérer ce problème de manière non conflictuelle entre les Européens et les Américains, ils oublient qu'en février 2015, le président Obama avait fait une déclaration d'une brutalité extrême dans laquelle il avait dit si les Européens font évoluer et utilisent leur droit de la concurrence à l'égard du numérique, c'est pour masquer leur propre faiblesse et leur incapacité à faire ce que nous, Américains, savons faire. Donc, c'est un vrai problème politique fondamental. Pour les années à venir.
Thibault, je rappelle justement, beaucoup disent, eh bien voilà, c'est juste une question de revanche. En fait, les Européens ne sont pas contents de ne pas avoir pris ce tournant numérique et d'avoir laissé se développer ces géants outre-Atlantique ou maintenant sur le territoire chinois.
Oui, j'ai toujours été assez mal à l'aise avec ces déclarations qui sont très difficiles à prouver. Ce qui est sûr, et en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord sur la question du lobby. Je pense que c'est une question très importante, d'un côté comme de l'autre. Or, il se trouve une étude empirique sur le sujet, et la Commission européenne ne mentionne jamais, durant ces 20 dernières années, la possibilité que certaines règles ou décisions soient capturées, que ce soit d'un côté ou de l'autre, donc c'est un problème qu'elle n'en parle pas. Mais ce qui est très intéressant, il me semble, c'est que ce qu'on voyait jusqu'à présent, c'est que la Commission européenne était sur un niveau d'analyse assez fin, où elle relevait des pratiques en disant à ces géants que certaines pratiques très précises étaient anticoncurrentielles, tandis que ces géants du numérique et le lobby derrière relevaient en permanence, non pas les pratiques, mais le gain général, l'utilité des services, etc. Et ce que fait la Commission avec le DMA, le Digital Market Act, c'est qu'elle se place sur le même niveau d'analyse désormais que celui des lobbies, c'est-à-dire qu'elle quitte le niveau des pratiques et elle dit que d'une façon systémique et très structurelle, ce qu'ils font n'est pas bon pour le consommateur. Elle cite l'absence d'innovation, ce qui est plutôt surprenant, les prix qui montent, etc. Et il se trouve que la recherche économique sur cette question de la structure idéale d'un marché et connaît une absence de consensus. Il y a un livre qui est paru très récemment sur le sujet du professeur Gilbert de Berkeley qui l'explique très bien. Or, la Commission européenne semble avoir décidé effectivement, comme elle le dit, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire de créer une structure du marché qu'elle estime être la bonne, ce qui par ailleurs, et je me permets de conclure là-dessus, pourrait être en contradiction avec l'autre acte qu'elle a présenté hier, qui est le Digital Service Act, puisqu'on commence à avoir des études également empiriques qui expliquent que plus il y a d'entreprises petites, par exemple, sur le marché de l'information, plus il y a de fake news, puisqu'elles se font concurrence pour essayer de capter l'attention potentielle du consommateur. Donc, la façon dont ces deux textes vont s'agencer, finalement, pose elle aussi question. Mmh. Et en réalité, je ne pense pas du tout qu'ils soient complémentaires, comme l'a présenté la Commission européenne hier soir.
Stéphanie Yoncourtin.
Oui, moi, je sur la question de la politisation, tout ça est politique. Moi, je doute et je m'inscris un peu en faux en fait, parce que l'idée n'est pas de taper sur les GAFA. Alors c'est vrai qu'on a coutume de résumer et de parler de GAFA, mais il s'agit pas d'une régulation contre certaines entreprises. Enfin, si on lit le projet de réglementation de régulation du DMA, on voit bien qu'il y a des critères quantitatifs qui sont posés. Et d'ailleurs, quand on les regarde, on se dit que des entreprises européennes pourront être concernées, être appelés, vous savez, ces gatekeepers, ces contrôleurs d'accès qui auront ces obligations et ces interdictions.
Stéphanie Courtin, il y a quand même une dizaine d'entreprises qui sont citées ou qui sont dans la cible de la commission, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais aussi le groupe néerlandais, effectivement, Booking, qui est un groupe européen, le chinois Alibaba, Snapchat, TikTok, etc. etc. Donc il y a tout de même effectivement des noms d'entreprises qui sont posé au cœur de ce Digital Market Act.
Oui, alors la Commission européenne n'a, à ma connaissance, pas encore...
Bien sûr, on n'a pas dit les noms.
...donné de nom, voilà. Mais effectivement, on peut les déduire à partir des critères quantitatifs, vous avez raison. Voilà. Mais ce qui montre que justement, ça va bien au-delà des GAFA, alors certes, bien évidemment, on sait bien que les Américains ont une nette avance sur nous en la matière, en termes de... en tant que plateforme et tous ces gatekeepers, donc bien évidemment, c'est très clair. Sur la politique américaine, moi je crois que les États-Unis veulent justement aller plus loin, puisqu'ils ont très clairement dit qu'ils pousseraient récemment un démantèlement. C'est tout l'objet actuellement de la discussion.
Ils sont pas tous d'accord aux États-Unis sur la question du démantèlement de ces géants. Il y a effectivement des démocrates qui pensent que le démantèlement serait une solution, mais beaucoup sont contre ce démantèlement des géants, comme on a pu le faire pour d'autres géants, que ce soit de la téléphonie il y a quelques années ou encore du pétrole il y a bien des décennies.
Ah, certes, mais si vous regardez la semaine dernière, les déclarations et les actions menées à la fois par la Federal Trade Commission et les 48 États américains, très clairement, on n'hésite pas à dire que s'il le faut, on démantèlera. Alors que vous voyez que au niveau européen, Margaret Vestager et Thierry Breton ont pris le soin de dire que en ultime ressort, il pourrait y avoir des remèdes structurels qui iraient jusqu'au démantèlement, mais qu'avant, on essaiera de travailler sur peut-être des meilleurs comportements à adopter, c'est-à-dire donner des accès ou non, mais en tout cas, je pense que véritablement, enfin moi je vois pas de, je me refuse à penser qu'il s'agirait de politisation et d'attaque en règle contre certaines nationalités. D'ailleurs, regardez un peu comment se comporte la Commission européenne sur certaines fusions-acquisitions de leaders d'entreprises européennes. Je crois qu'elle n'hésite pas quand il faut à interdire. Je crois qu'on avait parlé de Siemens Alstom il y a quelque temps, qui avait beaucoup fait parler. Donc je crois qu'en fait, non, il n'y a pas du tout de cible anti-GAFA, anti-nationalité. Il s'agit simplement de remettre l'église au milieu du village et surtout d'avoir des règles du jeu et de ne plus, pour certains, comme par exemple Amazon, être juge et partie, être joueur et arbitre, comme disent les Anglais.
Oui, ça c'est à propos en particulier des places de marché d'Amazon, où effectivement on peut vendre sur le site d'Amazon quand on est des indépendants, mais effectivement, où Amazon récupère les données. Ces données, nous les donnons tous à ces GAFA. Effacer l'historique de Delepine et Carverne était récemment un film consacré justement à ce que nous avons dans nos téléphones portables et qui peuvent nous menacer, qui peut nous menacer. Et la bande-son de ce film, c'était Daniel Johnston, Love Will Find You in the End.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end.
Vous écoutez le temps du débat. Nous nous consacrons aujourd'hui à savoir si l'Europe a les moyens de ses ambitions dans le domaine de la lutte contre les GAFAM, donc ces géants du numérique, après donc la journée d'hier où la Commission européenne a annoncé des mesures justement pour pouvoir réguler au mieux ce marché du numérique sur le territoire européen. Bruno Alomar, quand on regarde ce qui se passe, on se dit est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin? Je crois que c'est le prix Nobel d'économie Jean Tirole qui a dit, par exemple, il faudrait se méfier de éviter ce qu'on appelle les killer acquisitions. Je connaissais pas ce terme. Donc, ces achats par ces grands géants du numérique qui voient naître des petites startups et qui se disent, il y a peut-être là celui qui va nous tuer dans un contexte donc de croissance très rapide du marché du numérique et qui les rachète pour les étrangler d'une certaine façon. Est-ce que ça fait partie aussi des possibilités qu'on pourrait mettre en œuvre pour empêcher ces géants de devenir encore plus gros?
Alors, Je crois que ça a été envisagé. Il se trouve qu'il y a déjà un instrument. J'ai travaillé dans cette branche du droit de la concurrence à la Commission européenne pendant des années, qui s'appelle le contrôle des concentrations. Le contrôle des concentrations, c'est fait pour éviter la création ou le renforcement de ce qu'on appelle une position dominante. Donc il y a déjà un instrument. Après, le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle en droit, c'est un peu technique, mais c'est la charge de la preuve, c'est-à-dire prouver que une entreprise A va racheter une entreprise B, imaginons une toute petite, non pas pour utiliser son innovation et faire sa propre mutation en tant que grosse, et ça c'est très bien pour tout le monde, mais plutôt pour la tuer.
Donc, c'est d'ailleurs ce que dit Facebook, ils accusent de Bruxelles de vouloir baisser les standards légaux de charge de la preuve, par exemple.
Oui, enfin c'est assez logique. La contrepartie du fait que la Commission européenne, l'Union européenne a ce pouvoir d'empêcher la liberté d'entreprise en empêchant les rachats d'entreprises, ben la contrepartie c'est qu'elle doit prouver qu'effectivement il y a un danger et que ce danger il est important. Donc on peut tout à fait imaginer. Moi je ne dis pas que les killer acquisitions, c'est le terme employé, ça n'existe pas. Mais il va y avoir des effets de bord qui vont être extrêmement importants. Si demain vous êtes un ou plusieurs jeunes entrepreneurs européens très intelligents avec un super projet dans le numérique et qu'on vous dit de toute façon vous ne le vendrez jamais à une grande entreprise américaine parce que c'est interdit, quelle va être votre réaction? Votre réaction dans beaucoup de cas, ça va être de dire ah ben je vais la créer immédiatement aux États-Unis.
Mmh. Donc vous voyez. Ou en Angleterre, parce que tout compte fait, en sortant de l'Europe, on pourrait aller créer cela à Londres et sans aucun problème.
Exactement, exactement, ou en Angleterre. Et c'est un petit peu le problème de toute cette approche à mes yeux, c'est que cette approche, elle est vraiment, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, elle est clairement dirigée, ça ne trompe personne, contre les entreprises américaines. Mais être contre les entreprises américaines ne signifie pas nécessairement créer les conditions pour que naissent de grandes entreprises mmh. européennes. Et la vraie raison, ou les vraies raisons pour lesquelles les grandes entreprises européennes n'existent pas, ça doit... de manière peut-être minoritaire ou peut-être marginale, au sujet en question. Mmh. C'est aussi des questions de financement, c'est aussi des questions de fiscalité, c'est des questions de goût du risque, c'est des questions de langue, etc., etc., etc. Et moi, ce dont j'ai un petit peu peur dans toute cette histoire, c'est de vendre un faux message aux Européens. Mmh. C'est leur dire, les GAFAM européens arrivent, la preuve, on est en train de se battre mmh. contre les GAFAM américains. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Thibault Schreppel.
Oui, alors en l'occurrence, on a évoqué le nom de Jean Tirole. Il a également certains. Donc c'est vrai qu'il a parlé de ce phénomène des killer acquisitions. Sur ce sujet d'ailleurs, j'ai fait une lecture assez précise du DMA sur ce point, et il semblerait que la Commission européenne ne veuille pas imposer aux géants du numérique de notifier et de demander l'autorisation pour tout rachat de start-up, mais simplement de les signaler. En tout cas, c'est ce qui apparaît ouais, aujourd'hui dans le texte.
C'est ça.
Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas.
Ça peut changer d'ici 18 mois, oui.
Effectivement. Et par contre, Jean Tirole également a certains écrits, notamment dans son ouvrage sur la théorie du bien commun, où il explique qu'il ne faut pas de règles ex ante, parce que en l'état de la science économique, on ne peut pas les prendre. Et simplement, sur l'aspect politique, parce que je pense qu'il est quand même central, j'ai passé une partie de mon année 2019 à étudier l'ensemble des discours officiels de tous les commissaires européens à la concurrence. Et ce que j'ai constaté...
Ah, disons, vous avez de la chance, vous.
Exactement.
Ça doit être oui,
c'était plus de 1000 documents. Donc effectivement, c'était des soirées absolument fabuleuses. Mais donc, ce que j'ai constaté, et ce qui était très intéressant, c'est que tous les commissaires européens à la concurrence parlaient des entreprises européennes et des entreprises américaines en les qualifiant de nos entreprises, parce qu'elles bénéficiaient aux consommateurs. Et avec la nouvelle commissaire, le vocable a changé, et elle oppose désormais les entreprises au peuple. Donc, en ce sens, le message politique est clair. Ce qui est clair aussi, c'est que ces entreprises mettent en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, mais pour ça, on a le droit de la concurrence. Et un dernier point, et qui peut-être finalement finit d'achever l'aspect politique de ce texte, il me semble que la Commission européenne part d'un postulat qui est erroné lorsqu'elle dit que ces entreprises sont dans des positions qui ne peuvent pas être contestées. Or, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des entrées, ce qu'on appelle des entrées indirectes, c'est-à-dire des entreprises, effectivement, qui ne vont pas créer Facebook numéro 2, Google numéro 2, mais quelque chose de similaire, mais quand même sensiblement différent. Un bon exemple, c'est TikTok, créé en 2016, 800 millions d'utilisateurs, ce qui est la moitié des utilisateurs actifs de Facebook. Là-dessus, je me permets de signaler un ouvrage excellent du professeur Nicolas Petit qui vient de paraître et qui documente ce phénomène de façon empirique.
Et qu'il appelle le moligopole, lui.
Exactement, c'est l'idée de moligopole, c'est-à-dire que ces gens du numérique se font concurrence les uns aux autres. On le voit avec Amazon qui crée AWS, qui est un service de cloud computing, avec Google qui crée du réseau social, Facebook qui fait de l'information, etc. Et il y a un dernier point.
Mais c'est une vision totalement anti-régulatrice, celle de Nicolas Petit.
Elle n'est pas véritablement anti-régulatrice, puisqu'en réalité, elle tend à essayer d'identifier si certains marchés sont toujours dynamiques ou s'ils ne le sont pas. Et il me semble que ces marchés sont dynamiques, on le constate avec de nombreuses entrées sur ces marchés. Et également un dernier point, c'est qu'on qualifie souvent ces entreprises d'omniscientes, et en ce sens, je pense qu'elles le sont en ce qui concerne les consommateurs, et c'est pour ça que je pense que le DSA est plutôt un bon texte, et qu'il est bien écrit, il est bien équilibré, parce qu'effectivement, elles comprennent nos comportements sur les plateformes et peuvent les anticiper. En revanche, lorsqu'il s'agit de leur propre capacité à agir, l'histoire fait foison d'exemples où ces entreprises ont fait des erreurs. J'ai par exemple l'exemple de Yahoo qui refuse d'acheter Google pour 1 million, MySpace qui refuse d'acheter Facebook pour 75 millions, etc., etc. Et donc ces entreprises agissent sous le prisme de l'incertitude, et c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le DMA et qui, à mon sens, conduit ce texte à être déséquilibré et ne pas véritablement correspondre à l'état de la science économique et de la technique aujourd'hui, une fois encore à l'inverse du DSA, qui lui, pour le coup, est très dans l'air de son temps et me semble bien plus proportionné.
De votre côté, Stéphanie Yoncourtin, vous êtes eurodéputée, donc vous savez que cela va prendre du temps désormais, parce que là, c'est la copie de la Commission, mais effectivement, cette copie de Commission va être corrigée par les eurodéputés, par le Conseil européen, et donc on n'est pas arrivé au bout de ce texte-là, et il va falloir, je l'ai dit, peut-être jusqu'à 18 mois pour que ce texte aboutisse et puisse être mis en musique et devenir une véritable pratique, pourrait-on dire. D'ici là, il peut y avoir beaucoup de changements, Stéphanie Yoncourtin, dans un sens et dans l'autre. Vous parliez des lobbies donc du côté des GAFAM, mais ça peut aussi être une demande plus ample de la part de députés comme les députés verts, par exemple, d'aller encore plus loin dans la régulation.
Tout à fait. Alors, effectivement, le temps démocratique du Parlement européen n'est malheureusement pas celui de l'évolution des marchés numériques. Alors, notre ambition est bien sûr d'adopter ces règles au plus vite et de les voir se conclure rapidement, parce que il faut faire vite, et en même temps on doit avoir ce temps de discussion, ce temps d'échange.
Bien sûr.
Il y a de nombreux retours. Il y a quelques, je pense. Il y a besoin de compléter, il y a un besoin de travailler sur la mise en œuvre concrète de cet outil, son articulation avec le droit de la concurrence. Et donc, bien évidemment, on va mettre au moins 18 mois pour parvenir à un accord. Et il est nécessaire qu'on n'ait pas à revenir sur cette régulation 2 années plus tard, parce qu'elle a justement vocation à être ce qu'on appelle un peu, dans le bon français, future-proofed, c'est-à-dire qu'elle doit vraiment s'adapter dans le futur à toutes les évolutions de ces marchés numériques qui vont très vite. Il faut donc qu'on ait un instrument flexible et qui puisse résister aux évolutions futures. Il y aura des demandes, bien évidemment, et je sais que au-delà de cette liste prédéfinie d'interdictions et d'obligations, il faut qu'on fasse en sorte que, moi je pousserai pour ça, que les marchés numériques soient surveillés de manière effective, avec, je l'ai dit,
les moyens
humains nécessaires et les remèdes adaptés, et c'est toute la question, par qui ? Eh bien moi je pense...
Il faut une administration spéciale européenne autour de cela ?
Non, elle existe déjà. Je crois qu'il y a un bon point de départ qui est la DG Concurrence, notamment, une unité transversale au sein de la Commission européenne. On ne doit pas recréer un machin, parce qu'il nous faut des moyens. Donc, on doit vraiment faire feu de ce qu'on a, mais une meilleure coordination, parce que le numérique, ça brasse aussi les problématiques de protection du consommateur, tout ce qui est régulation sectorielle, et donc il faut qu'il y ait un réseau qui rassemble à la fois cette supervision européenne, mais bien évidemment en dialogue constant et en étroite coordination avec les régulateurs nationaux, les autorités nationales de protection des données, de concurrence, de protection des consommateurs, de régulation des télécoms, pour participer à cette régulation des plateformes. Et ça, c'est important. Pourtant, il faut qu'on décloisonne l'enjeu, qui n'est pas simplement le numérique qui serait isolé, parce que le numérique, il est partout. Le numérique, c'est notre vie, et je crois que véritablement, la pandémie du Covid a renforcé la place du numérique dans nos vies, que ce soit au travail, dans le divertissement. Et donc c'est un fait. Et moi, je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Schreppel et Monsieur Alomar sur le fait que je crois qu'on a des règles du jeu à établir. Encore une fois, moi, je voudrais prendre l'exemple d'un match de foot, si on a une métaphore à filer quelque part.
On était parti avec la route et les feux verts, mais maintenant c'est le match.
Moi, je prendrais celui du match de foot quand vous avez des équipes, deux équipes, l'une en face de l'autre. Elles sont concurrentes, mais elles ont besoin d'avoir les mêmes règles du jeu. Et si vous êtes à la fois joueur d'une équipe, que vous êtes également l'arbitre, mais que vous possédez le terrain, et bien vous avez un avantage très net sur l'autre équipe. Et si vous êtes en plus en mesure, sans que personne vous dise rien, de fixer vos propres règles à l'autre, croyez-moi, j'ai beau être une femme, je sais qui perdra et qui gagnera à la fin du
match. Un mot, vous attendez brièvement, je vais donner la parole à Thibaut Schreppel et Bruno Alomar pour conclure. Vous attendez à une grosse bataille, vous dites que ça pourrait être une bataille aussi importante que celle sur la directive sur le droit d'auteur. Stéphanie Yoncourtin.
Ah oui, bien sûr, pardon. Oui, bien sûr, la bataille sera bien évidemment aussi importante que sur le droit d'auteur, très clairement. D'ailleurs, on l'a senti, comme je vous l'ai dit, à travers plusieurs actions, plusieurs volontés, alors à la fois d'échanges directs ou indirects avec nous, et ça commence et ça va continuer, bien évidemment. Et moi, je serai à l'écoute, comme mes autres collègues parlementaires qui travailleront sur le sujet, de toutes les parties. Parce que encore une fois, il faut que ce soit quelque chose d'inclusif et de global. C'est une régulation pour et absolument pas contre.
Bruno Alomar, est-ce que vous pensez par exemple que des futurs géants ou déjà des géants européens, comme on a cité le cas de Booking.com, qui est un de ceux qui sont visés par cette réglementation, pourraient s'allier avec des géants étrangers dans une sorte de pression sur la Commission pour dire il ne faut pas cette réglementation telle qu'elle est proposée?
Ah bah moi je peux pas préjuger de ce que feront les uns et les autres. Chacun se défendra et c'est très logique. Ce que je voudrais dire peut-être pour conclure, c'est que encore une fois j'insiste, je suis pas certain que ce qui est en train de se préparer va vraiment aider les entreprises européennes petites qui voudraient se développer dans le numérique. Et puis par ailleurs, peut-être pour également faire un petit contre-champ, je suis d'accord avec Madame Yoncourtin quand elle dit le numérique, on l'a bien vu avec la pandémie à quel point c'était important, etc. Qu'on le veuille ou non, les Américains ont, pour reprendre l'allégorie du football, ils ont leur Zidane, leur Pelé, leur Maradona, etc. Je pense plus qu'il faut essayer de mettre sur le terrain nos propres et former nos Zidane et nos Maradona et autres plutôt que faire mettre sur le banc de touche des acteurs qui nous rendent à tous des services quand même absolument énormes.
Merci Bruno Alomar. Thibaut Schreppel pour conclure.
Oui, bien sûr. Alors sur la question de l'échange, je suis tout à fait d'accord qu'il faille un échange. Bien sûr, je vais plaider pour ma propre paroisse, mais il me semble que l'échange entre la commission et les académiques n'a pas eu lieu. Il y a eu une conférence et un rapport qui ont été précommandités par la commission avec des experts choisis par la commission. Et donc, en ce sens, pourquoi pas dialoguer également avec les académiques et peut-être pour finir sur une note un peu plus positive sur les manques. Et effectivement, je suis d'accord sur la nécessité de créer des règles du jeu. Il me semble qu'il y a plusieurs points qui pourraient intégrer la nouvelle version du DMA notamment. Le premier, c'est de mentionner d'analyser les nouvelles technologies. Je pense notamment à la blockchain avec des milliards de transactions réalisées chaque année qui vont avoir un impact sur ces acteurs. Le deuxième point, c'est l'aspect du management, parce que la Commission européenne ne parle absolument pas de ce qui se passe au sein de la firme. Or, c'est bien là que se crée l'innovation, entre autres, et c'est un point, à mon sens, à prendre en compte.
Et enfin,
le troisième, je l'ai dit, c'est celui du dynamisme du marché qui doit être revu. Et le quatrième point, c'est celui du budget sur lequel je me questionne. Effectivement, je pense que c'est très bien que les entreprises du numérique doivent signaler à la Commission les acquisitions de start-up. Ça va permettre à la Commission d'améliorer sa connaissance. Mais je me questionne par ailleurs sur le temps et le budget que cela va prendre à la Commission, sachant que l'OCDE, et je finis là-dessus, a relevé que la Commission se basait pour 90% de ses affaires sur des plaintes et n'était n'était pas proactive.
Merci.
Je me demande si elle va pouvoir avoir les moyens effectivement de ses ambitions pour reprendre le thème de cette
émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, donc Thibault Schreppel, à vous Bruno Alomar et à Stéphanie Yon-Courtin d'avoir débattu de cette question dans le temps du débat demain au lendemain du verdict que nous a raconté le procès des attentats de janvier 2015. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Iman Gilles, à la technique Alexandre Dang, à la réalisation Asia Ralid. Dans 3 minutes, vous allez retrouver Arnaud Laporte pour Affaires culturelles avec le compositeur et musicien Ron. Vous écoutez France Culture. Il est 19h et les titres de l'actualité sont présentés par Arnaud Rozac. Bonsoir Arnaud.